Législative 2012, 3e circonscription de la Drôme.
Une émission spéciale consacrée aux élections législatives avec en invité un candidat du premier tour,
3e circonscription de la Drôme.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA avec Baptiste à la réalisation.
Hervé Rasclard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes invité comme candidat aux élections législatives de la 3e circonscription de la Drôme. Nous avons invité Dida à se présenter aux auditeurs du Pays d'Iwa. Et je voulais savoir quelle était votre motivation première de ce parcours politique.
Écoutez, mon parcours politique, il est encore assez jeune, puisque je suis conseiller général depuis 2004. Donc j'ai grandi, moi aussi, avec des responsabilités dans un milieu rural, puisque je suis conseiller général du canton de Rémusat, donc depuis 2004. C'est vrai que j'ai des origines assez rurales, puisque ma famille est de Val-Drôme, quasiment la source de la Drôme. Et c'est vrai que mon engagement aujourd'hui, c'est à la fois cette volonté de donner une majorité donc à François Hollande, qui vient d'être élu le 6 mai président de la République, c'est l'objectif numéro un, mais aussi, je l'avoue, un objectif numéro deux, qui est de vraiment faire entendre la voix du monde rural à l'Assemblée nationale, parce que je pense que dans beaucoup de politiques mises en place au niveau national depuis plusieurs années, on est un peu les oubliés, de la vie politique. Et en temps de crise, j'ai l'impression que cet oubli devient de plus en plus important, puisque nos grands responsables nationaux, qui sont souvent très intelligents, raisonnent beaucoup avec des pourcentages. Et malheureusement, quand on raisonne en pourcentage, quand on découpe le pays en pourcentage, on est souvent en dehors des pourcentages. Et ce monde rural, j'ai vraiment envie, je le connais bien maintenant depuis très longtemps, et j'ai vraiment envie qu'il soit entendu, respecté et qu'il ait toute sa place dans les grandes décisions nationales.
D'un point de vue biographique, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu une histoire? Justement, vous avez évoqué Val-Drôme, vous évoquez Rémusat. Quel passage de l'un à l'autre? Quel a été votre parcours professionnel, scolaire peut-être?
Toutes les histoires sont belles, toutes les aventures humaines sont belles forcément. Moi, effectivement... je suis de la famille Rasclard, donc de Val-Drôme, du quartier des Garants. J'y attache une attention toute particulière, puisque c'est vrai que j'ai des souvenirs plein de la tête. Mais toute ma famille donc était à la ferme. Mon oncle avait un troupeau, et c'est vrai que j'ai passé une grosse partie de mon adolescence l'été dans les champs et puis à garder. Donc c'est vrai que pour moi, le Diwa, il est très présent dans mon cœur, même si j'en parle pas dans la vie de tous les jours. Et puis après, la vie m'a amené à faire effectivement des études sur Grenoble. Donc j'ai une maîtrise de sciences économiques. Et puis à un moment de la vie, mon épouse étant elle plus au sud du canton de Rémusat, ayant grandi à Vercloz, donc je suis devenu effectivement conseiller général du canton de Rémusat depuis 2004. Donc 2004, où je suis donc premier vice-président du conseil général, avec en charge à la fois les finances et ce que nous appelons les solidarités territoriales, c'est-à-dire toutes les relations avec les territoires du département de la Drôme, que ce soit les communes, le monde associatif et puis l'ensemble des choses qui se font dans le territoire drômois.
Je voulais savoir quelles étaient vos influences au niveau de la politique ou de vos opinions politiques qui vous ont permis de vous engager dans ce que vous êtes aujourd'hui.
Alors c'est l'origine, on trouve l'origine de mon engagement plutôt d'abord en termes associatifs, et le déclencheur c'était les manifs étudiants de 1986. J'étais sur Grenoble, et c'est vrai que je crois que beaucoup d'étudiants n'ont pas été insensibles à ce qui s'est passé à cette époque-là, et c'est vrai que c'est ce moment-là où je me suis engagé, alors d'abord dans une vie associative, après dans des clubs de réflexion politique de jeunes. Mais si on cherche l'origine, c'est un petit peu cette origine qui a après forgé donc mon engagement politique. Et puis après, le deuxième qui a forgé cet engagement politique, c'est que J'étais donc déjà sur le sud de ce département et j'ai rencontré un jour à la fin de mes études donc un personnage de la vie politique drômoise qui est devenu le troisième plus jeune sénateur de France, qui s'appelait Jean Besson, au coin d'une fontaine. Et il m'a fait venir une fois élu sénateur et je suis resté très longtemps à ses côtés, assistant parlementaire. Donc c'est là où je suis passé, j'allais dire, de l'engagement associatif à servir déjà ce beau département de la Drôme, puisque quand on travaille auprès d'un sénateur, on travaille pour toutes les communes du département de la Drôme. C'est vrai que donc je le sillonne, je le connais dans ses moindres recoins et j'ai découvert et je connais maintenant l'ensemble du tissu de la Drôme en général et de cette troisième circonscription en particulier.
Vous pourriez revenir un petit peu sur cet engagement associatif. Au départ, c'était quoi, du militantisme?
Oui, principalement du militantisme. J'avais pas de carte, j'avais pas d'engagement. J'avais un engagement associatif parce que j'étais dans les mouvements étudiants. J'ai participé à l'organisation des grands déplacements sur Paris avec ma fac de sciences éco de Grenoble. Après, j'étais dans des mouvements de jeunes. À l'époque, ça s'appelait le club Forum qu'on avait monté sur Drôme Ardèche avec notamment l'engagement sur le référendum en Nouvelle-Calédonie qui s'était produit. Donc voilà, vraiment un engagement associatif de départ, je veux dire le plus simple possible, à peu près dans des clubs de sport, etc. Donc c'est pas du tout, j'ai pas mis tout de suite les pieds dans la politique. Hein. C'est bien plus tard, j'ai dû prendre ma première carte donc au Parti Socialiste, puisque je suis fidèle à ce parti depuis le début, je crois en 1986. Ça a été ma première carte que j'ai pris au Parti Socialiste.
Je voulais revenir à tout à l'heure quand vous disiez que vous seriez le porte-parole des agriculteurs à Paris, du monde paysan. Je voulais savoir de quel type d'agriculture vous vouliez.
C'était plus la ruralité, il me semble.
La ruralité.
Oui, je pense qu'il ne faut pas réduire. J'ai bien dit que je voulais être le porte-parole, porter haut la voix de la ruralité dans son ensemble. Donc, bien évidemment, de l'agriculture que nous connaissons dans cette troisième circonscription, une agriculture très variée. Hein, on dit souvent que la Drôme, c'est une petite France. C'est vrai que moi, je côtoie dans la vie de tous les jours, dans mes mandats, un petit peu toutes les facettes de l'agriculture drômoise, mais notamment l'agriculture de notre arrière-pays, avec ses produits de qualité, avec ses passions. Je vous parlais de l'élevage tout à l'heure. Moi, c'est là-dedans que j'ai baigné tout petit. Alors, l'arboriculture, la vendéculture, si on va plus au sud, tous les métiers de l'arboriculture, l'élevage en général, je pense notamment au plateau aussi du Vercors. Donc, toute cette agriculture traditionnelle qui transmet à la fois des valeurs sur lesquelles nous sommes tous, je crois, très attachés, mais qui aujourd'hui est confrontée à de très graves difficultés. On sait depuis de nombreuses années que c'est le seul métier où le prix se forme à l'envers. Hein, la formation du prix agricole, on le subit. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui très sérieusement accompagner l'ensemble de ces productions, petites peut-être, mais l'ensemble de ces productions qui font vivre nos territoires. Et je crois qu'ils sont aussi la fierté, le département de la Drôme. Aujourd'hui, c'est un emblème avec premier département bio de France, mais aussi avec un nombre d'appellations d'origine contrôlée, je crois, très très important sur l'ensemble de ce territoire. Donc c'est certes le fleuron de notre département, c'est un peu son emblème. Malheureusement, au quotidien, beaucoup de celles et ceux qui essayent d'en vivre s'ouvrent au quotidien. Donc il faut trouver des solutions aujourd'hui pour valoriser ces produits et faire en sorte que cette agriculture, elle vive non plus d'aide, mais des prix qui sont pratiqués dans ces produits. Donc ça passera par des grandes négociations, des grandes réorientations politiques, mais ça passera par des initiatives locales. Je prends par exemple un exemple aujourd'hui d'un dispositif que l'on a mis en place tout seul comme des grands à l'échelle de la Drôme, qui s'appelle AgriLocal, qui est l'idée étant à la fois de faire manger mieux alors, à l'occurrence nos jeunes, puisque c'est dans les collèges, et de référencer dans un système d'appel d'offres donc, qui est labellisé par l'État, donc l'ensemble des agriculteurs qui produisent dans notre département. Et chaque fois qu'on fait une consultation, chaque fois qu'un gestionnaire commande des légumes, de la viande ou d'autres produits, on appuie sur un bouton et instantanément, il y a 3 ou 4 agriculteurs référencés qui, soit par mail, soit par SMS, soit par téléphone, reçoivent cette consultation avec l'engagement, 5 semaines après, de fournir des produits souvent de très grande qualité. On l'a testé à l'échelle de 10 collèges donc, depuis l'automne dernier. C'est un grand succès. 1, nos enfants mangent des produits de qualité. 2, nos agriculteurs ont des débouchés directs pour le produit. Et puis 3, et je pense que personne ne peut en être étonné, pour les gestionnaires, on paye moins cher. Pourquoi ? Parce qu'on échappe au système des intermédiaires. Donc ce procédé, il paraît tout petit. Là, on va le généraliser à la rentrée scolaire dans tous les collèges de ce département. Pourquoi pas demain dans tous les hôpitaux ? Pourquoi pas demain dans l'ensemble des maisons de retraite ? Et puis, la Drôme a présenté ce dispositif donc, au Salon de l'agriculture. On a déjà plein de départements qui sont demandeurs de reproduire le même système. Hein, il est déposé, le système est aujourd'hui compatible avec les marchés publics. Et François Hollande, qui est venu à l'époque candidat voir ce projet sur le Salon de l'agriculture, avait dit, une fois élu, je demanderai donc à l'ensemble des chambres d'agriculture de reproduire ce dispositif à l'échelle du territoire national. Voilà une initiative concrète, sans passer par des grands dispositifs qui peuvent permettre peut-être à un modeste niveau, mais je pense que si on le généralise, de permettre à la fois de faire en sorte que nos habitants, les jeunes et les moins jeunes, puissent goûter et manger donc, de l'ensemble des produits de cette ferme drômoise, et puis surtout à nos agriculteurs de pouvoir trouver des débouchés et avoir des prix rémunérateurs pour leurs produits.
Yves fait un petit raccourci, peut-être agriculture, ruralité. Mais il n'empêche que là, on vient bien de décrire quelle pourrait être la défense de l'agriculture, en tout cas avec quelques-unes de vos idées. Cependant, quelle différence vous faites réellement entre la ruralité et l'agriculture ? Et est-ce pas justement l'agriculture qui tient cette ruralité ?
L'agriculture est un pilier essentiel de la ruralité.
Quels seraient les autres éléments ?
Je vous en donne au moins deux. Le deuxième pilier, et je crois qu'après 10 ans de politique libérale, ce deuxième pilier a été mis à mal, c'est les services publics en général, les services de santé en particulier, où nous avons une situation sur cette troisième circonscription très difficile, bien entendu sur 10, avec... Le combat sur lequel il faut vraiment une bonne fois pour toutes déboucher, puisque pour l'instant c'est un combat, mais j'allais dire c'est les usagers, les professionnels qui se battent tout seuls. Et pour l'instant donc des élus nationaux donc, qui les regardent se battre et qui ne sont pas à leur côté pour trouver un avenir à l'hôpital de Die, mais c'est le même combat qu'il faut mener avec l'hôpital de Valréas, qui est l'hôpital indispensable pour tout l'arrière-pays du sud de notre département, et puis nos hôpitaux de proximité, sur lesquels il faut continuer à se battre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il se trouve que Marisol Touraine, nouvelle ministre de la Santé, était dans la Drôme il n'y a pas très longtemps pour la campagne des présidentielles. Elle a fixé 2 grands projets dans le cadre de son mandat, qui, je crois, seront... pour le député de la nouvelle majorité présidentielle, pour moi, je crois, une façon très rapide de pouvoir trouver une issue pour l'hôpital de Die, mais aussi pour tous les autres instituts, puisqu'elle a fait des déserts médicaux la priorité des priorités de l'exercice donc, de son mandat. Et sa deuxième priorité, c'était l'encadrement donc, des dépassements d'honoraires, qui sont aussi une nécessité pour que l'ensemble de nos populations puissent se soigner. Donc je parlais de la santé. Mais c'est les services publics en général qui, depuis maintenant 10 ans, que ce soit les tribunaux d'instance, les présences postales, nos écoles, avec encore de nombreuses écoles en milieu rural qui sont menacées, où il faut arrêter cette règle arithmétique bête et méchante pour l'école de la République, où on en arrive à des extrémités, où pour regrouper à tout prix, faire des économies d'un poste, on a aujourd'hui dans nos territoires des enfants qui chaque matin sont une heure dans les véhicules, une demi-heure ou trois quarts d'heure à midi pour manger, encore une heure le soir pour rentrer. Tout ça pour économiser un poste d'instituteur. Et au passage, on a 30 à 40 000 euros de transport scolaire à mettre en place. Alors bien sûr, on a bien compris. Hein, à l'époque, c'est l'État qui faisait une économie et c'est les collectivités locales qui payaient l'autre côté. Mais que vient faire l'arithmétique et les problèmes financiers dans l'éducation de nos enfants? Donc les problèmes de la ruralité, c'est un des piliers du projet de François Hollande, en remettant donc l'école au centre de tout, en faisant en sorte que sur ces cinq années, on arrive à corriger la casse de l'école publique qui s'est passée sur l'ensemble de nos territoires, en remettant des moyens dès cette rentrée scolaire.
Oui, par exemple, les RASED ont été supprimés là, récemment.
Concrètement, c'est dès la rentrée 2012, 3000 postes supplémentaires. On ne peut pas aller bien plus loin, puisque pour l'instant, on est obligé d'aller chercher des instituteurs donc sur les listes complémentaires. Et la priorité des priorités pour affecter ces 3000 postes, ça sera la remise en place d'un vrai tissu de RASED sur l'ensemble des territoires français et notamment sur, bien entendu, les territoires qui nous concernent très, très concrètement. Puis, voilà quelques exemples. On pourrait décliner longtemps cela. C'est être l'ambassadeur de la ruralité. C'est de dire que ces territoires doivent, avoir les mêmes droits, même si c'est plus compliqué que les autres territoires, et que même en temps de crise, il faut qu'on arrête de devenir les oubliés. Et quand je disais tout à l'heure, on raisonne en pourcentage, c'est qu'on s'aperçoit quand on reçoit les gens aujourd'hui des services de l'administration, ils n'ont aucune conscience qu'un territoire comme le nôtre, on ne raisonne pas en kilomètres ou en pourcentage, mais en temps de déplacement. Et qu'un service de santé, quand on parle de l'hôpital de Die, derrière l'hôpital de Die, il y a encore des territoires. Hein, et donc, il ne faut pas parler. Lui, il nous dit, mais quand vous êtes à Die, vous n'êtes plus qu'à une heure de Valence. Oui, d'accord, mais il faut aller chercher les territoires qui sont derrière. Quand on est à l'hôpital de Nyon, sur l'hôpital de Valréas, et qu'on est à Rémusat, il y a encore des gens qui habitent à trois quarts d'heure ou une heure des points de santé qui existent.
Hein, alors d'ailleurs, il y avait une petite attaque d'un candidat précédent qui est passé à ce micro, à ce propos, qui était de dire que le Parti Socialiste promettait de remettre un service d'urgence au minimum à 30 minutes de toute personne. Et donc là, vous êtes en train de mettre le doigt sur le fait que c'est très compliqué, même là où il y a déjà des centres, il y a encore des gens qui sont encore plus loin.
Oui,
est-ce que ça va être fait, ça va être mis en œuvre?
Je ne sais pas qui était le candidat, quelle était la critique, donc ça ne va pas être facile de lui répondre à sa question.
C'était de dire que...
Mais justement, je veux dire, aujourd'hui on a la chance d'avoir des établissements qui existent, avec des savoir-faire, avec des praticiens qui ont envie de vivre ici. Le problème, on le sait très bien, si on dit l'hôpital, alors je ne sais pas si c'est la personne qui est sortante qui m'a dit l'autre jour en débat qu'elle avait sauvé l'hôpital de Die. Oui, elle l'a sauvé jusqu'au 15 juillet. Quoi. Et on sait très bien que d'autoriser un hôpital comme Die ou Valréas d'année en année, vous ne pourrez jamais mettre en place un projet dans la durée. Donc je veux dire, donner des autorisations pour un hôpital comme Die ou comme Valréas sur des durées d'un an, c'est condamné petit à petit à ce que ils ferment tout seuls et je pense qu'on peut le comprendre que des professionnels de santé quand ils ont un projet pour s'installer, eux aussi ils ont le droit d'avoir un projet de vie. Si on leur dit c'est pour un an, c'est peut-être plus facile de s'installer que si on leur dit sur la durée du contrat, qui sont des durées de 5 ans, on a la certitude qu'il y a un avenir sur cet hôpital. Donc c'est ce travail qu'il faut faire et sur lequel, je crois, là, on a une chance extraordinaire. Si, encore faut-il, effectivement, que cette circonscription fasse le choix d'avoir un député de la majorité présidentielle, c'est de pouvoir avoir en face de nous, aujourd'hui, une ministre qui fait des déserts médicaux, la priorité des priorités. Je pense qu'on attendait cette déclaration, puisque c'est vrai qu'on l'avait vue dans la Drôme très longtemps. Mais je veux dire, là, on a vraiment la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous entend, qui nous comprend et qui peut faire bouger les lignes et pas simplement avoir un raisonnement, administratif, sans le qualifier. Je ne vais pas critiquer l'administration française, mais c'est vrai que de temps en temps, on a des difficultés à leur faire comprendre que ces territoires, il ne faut pas simplement les regarder avec de l'arithmétique, mais les regarder avec les territoires qui sont, qui sont relativement grands, avec des populations qui vivent sur des espaces qui sont très grands, avec des temps de déplacement plus importants que quand on raisonne. Donc en ville, on peut rebondir. Quand vous dites la ruralité, c'est quoi ? Des centres, l'économie sociale et solidaire, hein, qui sont tous les centres de soins ou les centres de maintien à domicile. Aujourd'hui, c'est pour ces territoires ruraux, j'allais dire, des employeurs considérables. Vous avez l'ADES, a dit, hein, vous avez le centre de soins de Curnier. Enfin, il y en a sur tous les territoires de cette troisième circonscription. On va bien carrément arriver à expliquer à tous les organismes financeurs de ces centres de soins qu'une heure en milieu rural, ça ne coûte pas le même prix qu'une heure en milieu urbain, puisque les temps de déplacement pour les gens qui font du maintien à domicile, il faut bien tenir compte qu'il y a des kilomètres et du temps passé dans les voitures pour aller. Le Conseil général l'a compris, nous avons déplafonné nos aides. C'est-à-dire qu'une heure payée au centre de soins de Romans, par exemple, on ne paye pas le même prix qu'une heure payée à l'ADES ou au centre de soins de Curnier. Pourquoi ? Parce qu'on tient compte, effectivement, de la particularité de ces territoires ruraux. Eh bien, ce qu'il faut faire, et c'est ça qu'on attend d'un parlementaire, c'est pas simplement d'être présent, hein, et de se montrer lors des inaugurations, c'est de régler des problèmes concrets comme ceux-là. Hein, si aujourd'hui l'ADES a eu autant de difficultés, si notre centre de soins de Curnier a eu autant de difficultés, c'est tout simplement parce que depuis des années et des années, on se bat pour essayer de faire comprendre ça. L'État, hein, doit aller négocier avec les organismes financeurs pour faire en sorte qu'on applique tout simplement le bon sens. Voilà ce que c'est faire entendre la voix de la ruralité. C'est pas simplement, c'est bien évidemment pour l'agriculture, mais c'est aussi pour tout ce que je viens de vous décrire aujourd'hui. Et la liste est longue, hein, puisque les préoccupations de nos territoires sont nombreux. On pourrait parler d'aménagement numérique, on pourrait parler de tout un tas de dossiers comme celui-là. Voilà, il faut sortir de cette vision libérale, hein, qui nous a amenés dans une société où on ne tient plus compte des gens. On est des numéros et on veut appliquer la même politique, quels que soient les territoires, sans connaître la réalité des déplacements, la réalité des territoires.
Je voulais en venir justement au numérique, mais vous l'amenez justement dans la discussion. Est-ce que le numérique ne serait justement pas un problème pour la ruralité, c'est-à-dire une espèce d'uniformisation due à l'informatique et à la gestion numérique?
Alors, je ne sais pas sur quel biais vous voulez l'amener. Je crois que le numérique peut être une chance. Ça dépend après l'utilisation que l'on en fait, mais c'est une magnifique chance pour que chacun puisse accéder donc à la connaissance. C'est une magnifique chance pour, par exemple, dire qu'un service public, eh ben, il n'est plus à Valence, mais il est à Die. Une fois qu'on a des réseaux numériques, la personne, qu'elle soit à Die ou à Valence, il n'y a plus aucune différence. C'est une chance fabuleuse pour faire du télétravail. Pourquoi en France, nous ne sommes pas comme dans les pays nordiques, où 20% de l'emploi salarié travaille en télétravail chez lui ou dans des lieux mutualisés, dans des petites villes, des territoires? Pourquoi? On se pose la question, il faut faire des économies en transport. Mais expliquez-moi pourquoi, chaque jour, il y a des milliers et des milliers de personnes qui partent de chez eux pour faire, je suis gentil, 30, 40, 50, 60, 70 kilomètres pour se mettre devant un ordinateur, faire des tâches et le soir reprendre sa voiture, refaire 30, 40, 50, 60 kilomètres et retourner chez elle. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je le sais pourquoi. C'est une culture. Hein, nous sommes une culture latine avec des chefs qui aiment bien avoir. Mais bon, un jour ou l'autre, plutôt que de faire des grandes phrases et mettre le mot durable à toutes les sauces, prenons des moyens concrets pour faire en sorte de développer le télétravail dans notre pays. Donc le numérique, dans ce cas-là, si les réseaux et si l'accès aux réseaux est les mêmes en ville ou à la campagne, on peut très bien imaginer que tout un pan de population, notamment des jeunes, puisse rester, s'installer, hein, dans des territoires plus ruraux. Moi, dans mon petit village, j'ai quelqu'un qui fait des piges pour tous les grands journaux du territoire français. Ben, elle habite à Montréal-les-Sources. Elle s'en porte très bien. Elle va à Paris deux fois par mois. Elle est avec un petit bout de chou. Elle vivait dans un 20 mètres carrés au centre-ville de Paris avec son mari. Elle n'arrivait pas à joindre les fins de mois. Aujourd'hui, elle a une magnifique maison au milieu des baronnies avec 110 mètres carrés. Vous croyez qu'elle n'est pas mieux? C'est ça le numérique. C'est sur cet angle-là qu'il faut voir le numérique, pas sur le conformisme. Après, il y a tous les défauts de l'utilisation, effectivement, du numérique, ou peut-être de la résistance, hein, qu'il faut mettre en place sur la, la googlisation de notre société. Mais ça, après, j'allais dire, ça appartient aux citoyens et aux, aux élus de montrer qu'il y a d'autres, d'autres voies. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses avec une association en termes de numérique pour montrer qu'en termes de logiciels libres, il y avait un bel avenir et qu'on pouvait faire plein de choses. On est en train de montrer à l'échelle de Rhône-Alpes qu'avec la, la libéralisation des données publiques, plutôt que de les vendre à certains qui voulaient les acheter, il faut les garder dans le patrimoine et que c'est tout l'ensemble de ces données publiques peut être demain des richesses pour des services ou pour que des citoyens s'approprient ces, ces données publiques pour, par exemple, monter une centrale de mobilité ou faire du covoiturage. Non, je crois vraiment que, comme nos anciens à l'époque avaient imaginé un service public de l'électricité, avaient aménagé nos territoires pour qu'on ait les, j'allais dire, les mêmes possibilités d'accès à la lumière, c'est comme ça qu'on disait à l'époque dans nos territoires ruraux. On est sur le même défi avec le numérique. Aujourd'hui, on a une vision de l'ancien gouvernement qui était une vision totalement libérale en disant ce sont les grands opérateurs, je ne citerai pas de nom, je ne vais pas faire de la pub, qui vont aménager les territoires. Alors bien sûr, ils vont aménager les territoires. Hein. 2025, 60% des territoires, toujours les pourcentages fibrés. Vous croyez qu'on y est, nous, dans les 60%? Vous croyez qu'il y a des communes de la troisième circonscription qui font partie des 60% fibrés par, la, par les grands opérateurs? Oui, il y en a trois.
Justement,
vous... Il y aurait trois communes sur les 241 de la troisième circonscription. Si on appliquait...
Les grosses, quoi.
Voilà. Non, même pas les grosses, c'est qu'ils ont la chance d'être dans une zone agglo. Ça serait la commune de, du côté de Chabeuil. Hein, il y a trois communes qui font partie de l'aire urbaine de Valence et qui seraient concernées. Mais il y en aurait 238 qui resteraient au bord du chemin. Donc, il faut avoir une autre vision de l'aménagement du territoire. Comme d'habitude, hein, il faut que les gens comprennent que quand on parle de service public, ce n'est pas méchant. Il faut arrêter de montrer du doigt. Un service public, ça veut dire les mêmes droits pour tous. Donc si on fait un projet d'aménagement numérique des territoires, comme nos anciens ont fait un service public de l'électricité, eh ben, quand on va mettre des moyens sur la table, on va les mettre pour tous et chacun aura le même droit en termes d'aménagement. C'est deux visions complètement différentes de la société. Une du député sortant, qui, même s'il me dit souvent qu'il a un homme libre, a voté toutes les lois libérales de ces 10 dernières années. Et puis, une autre vision hein, que je défends et qui, pour les territoires, est indispensable de dire que s'il n'y a pas de la péréquation et de l'aménagement du territoire, dans 10 ans, 10 ans plus tard, on n'aura plus d'hôpitaux, on n'aura plus de présence postale, on n'aura quasiment plus d'écoles, on mettra tous nos enfants dans des moyens urbains pour les déplacer le matin, le midi et le soir. C'est ça, faire entendre la voix de la... de la ruralité, c'est montrer que dans un pays comme la France, qui a fait de l'égalité des citoyens, j'allais dire la base de sa République, eh ben, il faut la remettre au goût du jour et que même par temps de crise, si on a une autre vision de la société, on peut faire des projets d'aménagement du territoire. Et qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas d'argent en France pour le faire, c'est faux.
Hein. Où le prenez-vous d'ailleurs, tiens?
C'est sur, vous voulez rester sur le numérique?
Ah non, surtout. Sur les services publics, sur l'hôpital, sur... on n'a pas encore abordé le cas du transport et de la SNCF,
oui,
par exemple.
Ça,
non, je vais prendre la question grand angle sur alors, une évidence, aujourd'hui, les caisses sont vides. Hein, ce n'est pas une surprise. Monsieur Fillon avait osé dire que la France était en faillite. On lui avait vite dit de se taire, mais c'est une réalité avec un, encore un budget de la France 2012 qui va se terminer avec un déficit de 100 milliards d'euros. Donc effectivement, il faut trouver de nouvelles recettes et on voit aujourd'hui s'agiter à nouveau la droite qui vient d'être battue, mais qui voudrait nous faire croire que les Français veulent encore leur projet et qu'on va ponctionner les plus en difficulté et les classes moyennes. Non, notre projet, il est clair. Le projet de François Hollande, il a été clairement défini et bouclé et financé sur les 5 ans qui viennent. Alors, où va-t-on trouver l'argent? Notamment pour, d'abord, rétablir l'équilibre de nos comptes publics, hein, parce qu'on ne peut pas vivre à crédit comme ça encore pendant des décennies. Hein. Je vous rappelle quand même que la droite, hein, qui se dit bonne gestionnaire, en 10 ans, a doublé l'endettement de la France. Hein. On est passé de 800 à 1 600 milliards en 10 ans. C'est quand même un exploit. Hein. Donc pour des bons gestionnaires, je pense qu'il était quand même urgent que le changement se mette en place si on ne voulait pas, si on voulait pas continuer. Mais l'argent, il y en a de l'argent. Et je vais vous citer une source. Hein. Au moins, on ne pourra pas me dire que je prends mes sources, et je suis des gens de gauche, je prends le rapport de M. Carrez, hein, qui est quand même pas réputé pour Gilles Carrez, qui est pas réputé pour être un sociodémocrate averti, puisqu'il était député UMP, qui a remis un rapport à Monsieur Fillon il y a quelques mois, oui quelques mois maintenant, c'était à la fin de l'année, qui dit tout simplement, si vous le lisez bien, il est très instructif, hein, vous revenez simplement au système d'imposition qui existait il y a 10 ans. Hein, vous revenez 10 ans en arrière. C'est pas vieux ça, 10 ans en arrière. Hein. Et ça montre bien quand même la politique de ces 10 ans. Hein. Vous auriez chaque année 100 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, on a exonéré niche fiscale pour les grandes entreprises, modification de l'ISF, bouclier fiscal, hein, où on était obligé. C'est quand même un paradoxe où c'est le trésor public qui faisait chaque année des chèques aux plus riches. Enfin, je veux dire, on est dans un système où on a menti aux Français en disant que ce n'est pas un problème de manque d'argent, c'est un problème de justice fiscale, hein, sur lequel il faut revenir très très vite. Donc l'argent, on sait où on va le trouver. Hein, il faut faire une vraie réforme fiscale dans ce pays. Et donc le premier projet et la première démarche, hein, qui va être présentée très rapidement par Moscovici, le nouveau ministre, hein, c'est revenir donc sur un ensemble de cadeaux, hein, et d'exonérations qui devraient, dans un premier temps, rapporter 30 milliards d'euros supplémentaires à l'État. Donc les moyens, j'allais dire, les marges de manœuvre dans ce pays, elles existent. Hein. Vous avez la réforme de l'impôt sur les sociétés, hein, qui va arriver très rapidement, où le projet il est très clair. J'étais ce matin en débat avec les petites et moyennes entreprises qui, pour moi, je pense, sont la clé pour refaire partir la machine économique, c'est de dire l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, c'est qui la paye? C'est les petits, hein, toujours pareil. Hein. Les grandes entreprises, avec toutes les exonérations, arrivent à échapper à l'ensemble de l'imposition. Là, c'est clair, réforme de l'impôt sur les sociétés, c'est 30 avec même un niveau de 35% pour les plus grosses et on descend jusqu'à 15% pour les plus petites entreprises. Et puis, deuxième mécanisme, une petite PME dont les bénéfices sont réinvestis pour développer l'entreprise, créer de l'emploi et donc embaucher, et ben ces bénéfices seront moins imposés que les grandes entreprises dont les bénéfices sont servis aux actionnaires. Là, c'est pareil, ce n'est pas demain ou après-demain, c'est dès le mois de juillet. Donc, ces propositions seront présentées aux partenaires sociaux. Hein, vous l'avez vu, l'acte fort du président, on va respecter les partenaires sociaux, on va apaiser notre pays, on va remettre des mesures qui sont négociées avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc, voilà, l'argent, voilà quelques pistes sur lesquelles on va le trouver. Alors, si je finis et je boucle ce que j'ai commencé sur l'aménagement numérique, puisque c'est un engagement, hein, du projet de François Hollande. Donc, il existe aujourd'hui, il y a un rapport donc, qui a été fait au niveau de la Commission européenne qui montre qu'il y a des fonds d'investissement à long terme que les États peuvent aller chercher pour co-investir. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant, on a investi avec les collectivités locales et avec le privé. Hein, déjà, il y a du privé dans le projet d'Ardèche Drôme Numérique, puisque ces réseaux sont rentables à 20 ou 25 ans. Bien entendu, les opérateurs d'aujourd'hui, leurs actionnaires, veulent des taux de rentabilité à 3 ans. Donc, ces réseaux ne sont pas rentables. Par contre, si vous faites un projet sur des réseaux numériques, on ne va pas les changer tous les 2 ans, hein, ces réseaux, à 20 ou 25 ans, ces réseaux sont rentables. Donc, nous trouverons des fonds d'investissement à long terme. Ils existent sur les réseaux pour monter un projet de co-investissement. Alors, est-ce qu'il faut le faire au niveau national? Est-ce qu'il faut le faire avec des lots régionaux? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur des projets départementaux comme on l'a fait avec ADN? C'est avec Fleur de Pellerin, donc la nouvelle ministre, que nous allons travailler. J'ai un premier rendez-vous qui est prêt dès que les échéances seront terminées pour montrer, hein, ce projet d'Ardèche Drôme Numérique qui, sans vouloir faire cocorico, est quand même le plus gros projet d'aménagement numérique en France. Hein. Il n'y a pas de projet de cette ampleur en France. On va lui montrer que ça marche. Aujourd'hui, on va lui montrer qu'à partir de ce réseau, on peut aller plus loin. Et si elle insiste pour que la Drôme soit pilote, et notamment cette troisième circonscription soit pilote pour faire un projet donc, d'aménagement numérique pour tous, bien évidemment, on sera présent et on sera au rendez-vous.
Juste une petite question parallèle. Là, vous avez cité déjà deux ministres. Vous avez déjà cité donc trois ministres. Peut-on entendre, en deux mots, hein, que l'équipe ne sera pas remaniée si la majorité passe en législative, contrairement à d'autres gouvernements, hein, qui changent de ministre comme de chemise.
Bah, peut-être, je pense à une exception près, puisque vous le savez.
À l'exception François de Jospin.
François Hollande a fixé une règle, puisqu'il a dit que tout ministre qui ne sera pas capable de garder une circonscription, donc qui ne sera capable de se faire élire par le peuple, n'a pas sa place dans un ministère. Donc effectivement, tous les ministres qui ne gagneront pas leur bataille législative, effectivement, sont susceptibles de changer. Par contre, ceux que je vous ai cités, je pense, seront bien là demain. On a commencé à travailler avec eux. Le gouvernement travaille depuis, vous l'avez vu, on a fait ni réception aux Fouquet's, ni promenade sur les yachts de Bolloré. Donc le gouvernement est au travail. Nous avons déjà eu des rendez-vous. Je vous ai cité Pierre Moscovici sur la partie réforme fiscale, avec Marisol Touraine sur la santé, notamment nos hôpitaux, mais aussi sur nos hôpitaux de proximité. Je vous ai pas cité peut-être, mais le président du Conseil général y était encore avant-hier avec Stéphane Le Foll au ministère de l'Agriculture. Donc oui, nous avons commencé à travailler pour défendre nos projets, et notamment les projets de cette troisième circonscription de la Drôme, où, vous l'avez compris, j'ai une envie et une énergie débordante pour pousser l'ensemble de ces projets. Je pense pas qu'on ait le temps de faire le tour de tous les sujets, mais que ce soit les services publics, que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la défense de l'agriculture, que ce soit l'aménagement numérique, que ce soit les grands projets et les grands défis de demain, qui sont la dépendance et le financement des maisons de retraite décentes sur l'ensemble de ce territoire. Voilà quelques projets sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler et sur lesquels j'aurai demain une grande détermination. Non pas simplement, puisque on me reproche souvent, on me dit on ne te voit pas assez. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je suis candidat donc sur cette circonscription. Donc c'est vrai que j'avais plus de raisons d'être connu dans les baronnies que dans d'autres territoires. Il n'empêche que je les connais, et je crois que le boulot d'un député, c'est pas simplement de faire des photographies ou de serrer la main ou de faire le repas des repas avec des personnes. C'est surtout de défendre son territoire et de trouver des solutions, amener des solutions concrètes aux préoccupations de nos Français à l'échelle, bien entendu, d'un député, donc, c'est-à-dire sur les grands secteurs que j'ai montré tout à l'heure. J'ai la chance de quasiment tous les connaître. Ça fait plus de 20 ans que je connais toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans les ministères que je vous ai cités tout à l'heure. Donc je pense qu'on peut vraiment, si les électeurs de cette troisième circonscription, et notamment ceux du Divois, me font confiance, avoir de vrais résultats, pas pour me faire plaisir. Les titres ne m'intéressent pas. Par contre, je pense que je peux vraiment servir et ce territoire, servir mon pays en tant que député, mais aussi servir l'ensemble des territoires de cette troisième circonscription, que ce soit le Royan, le Vercors, le Divois, la vallée de la Drôme, mais aussi tous les autres territoires plus au sud qui ne sont peut-être pas les auditeurs premiers de cette radio.
Pour le social, au niveau du Divois, vous avez déjà parcouru pas mal de sujets concernant l'école, l'hôpital. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux en perspective dans les années à venir, des innovations à avoir par rapport à la population et à essayer de maintenir une vie quand même dans des villes qui semblent déserter petit à petit?
On a déjà développé pas mal de projets. Je vous ai déjà parlé de beaucoup de projets pour faire vivre des jeunes dans nos territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'un revers de main, mais je veux m'y arrêter. Il y a un chantier essentiel pour... Je crois que c'est même un des défis les plus importants de notre société, c'est nos anciens. On a trop repoussé ce qu'on a appelé le débat sur la dépendance. Ça fait 3, 4, 5 ans, je pense depuis l'élection du président, nous avait dit l'année prochaine, ça sera l'année où on va s'attaquer donc au problème de la dépendance. Pas simplement parler de la dépendance, savoir demain comment on accueille décemment l'ensemble de nos anciens et comment on finance l'hébergement de nos anciens demain. Ce chantier est un chantier immense, et je crois que ça sera demain, notamment aussi pour nos territoires ruraux, un véritable défi d'accueillir tous nos anciens décemment. Et moi, mon projet, vous l'avez vu, on a déjà on a montré l'exemple dans ce territoire, puisque le Conseil général a financé ce qu'on appelle une maison d'accueil rurale pour personnes âgées. On a souhaité pas le mettre dans les grands bourgs, on en a mis une à Rémusat et une à Luc-en-Divois. Hein, parce que nos anciens, ils ont aussi le droit de rester, comme ils disent, dans leur montagne. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de concentrer pareil et de redescendre nos anciens. Et en plus, je vous rappelle qu'une maison d'accueil rurale, même si elle n'est pas médicalisée, c'est aussi de l'emploi, hein, très concrètement, pour aussi fixer des gens dans ces populations. Et puis ensuite, je pense qu'il y a des pans entiers, hein, de la vie associative, notamment culturelle, hein, sur lequel on a des atouts formidables dans, nos, dans l'ensemble de nos territoires qu'il faut peut-être encourager, développer. Et c'est peut-être aussi des nouvelles populations qu'on peut fixer sur nos territoires. Encore faut-il peut-être les accompagner, arrêter de les montrer du doigt, les accompagner et faire en sorte que peut-être les métiers de demain ne seront pas les métiers d'avant-hier. Et puis un secteur entier qu'il faut développer, qui seront, je pense, aussi une chance pour nos territoires ruraux, c'est produire de l'énergie autrement. Alors d'abord, l'économiser au maximum, c'est-à-dire construire autrement. Donc là, on a un champ entier, et pour notre circonscription, ce n'est pas un mince mot, avec le développement de vraies filières d'éco-construction. Hein, on a déjà développé sur pas mal de territoires, donc déjà des filières. Là, je pense qu'il y en a qu'il faut vraiment développer et fixer. C'est aussi des emplois de demain. Et puis, produire de l'énergie autrement et produire de l'énergie localement. Hein, on a des gisements. Il y a encore des gisements sur des rivières. Il y a des gisements en termes de méthanisation, hein, où c'est des gros mots aujourd'hui en France. En gros, si je peux me permettre ce petit raccourci, tout ce qui pourrit, hein, que ce soit des déchets de fruits, des déchets verts ou autres. Vous allez dans les pays du Nord, vous parcourez les campagnes, vous avez en gros tous les 10 ou 15 grosses fermes, un projet de méthanisation. C'est d'abord produire intelligemment, produire localement, plutôt que d'arrêter de faire des réseaux qui coûtent des millions d'euros. Et puis, c'est des sources de revenus très concrets pour permettre à des jeunes ou à des agriculteurs donc, de se maintenir sur nos territoires. Donc oui, demain, un parlementaire se doit aussi de pousser pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux emplois, hein, des nouveaux emplois qui peuvent se développer autour des territoires.
Parlons d'un autre projet qui fait un peu office de pionnier, où la Drôme est encore une fois pionnière, c'est le projet Biovallée. Un mot là-dessus ?
Oui, bah, je crois que je viens de vous donner un petit peu quelques exemples de ce que développe le projet Biovallée autour de l'artisanat d'art, autour du construire autrement, autour du numérique, hein, puisqu'ils s'y mettent et ils ont des... C'est le premier projet qu'on est en train de monter en Drôme, donc sur le télétravail, c'est justement avec le Val de Drôme, hein, donc, puisqu'on a eu un pôle d'excellence rurale et donc c'est l'association Pôle Numérique qui va être l'animateur de ce projet pour développer 3 sites, hein, de télétravail sur cette vallée. Donc effectivement, on a des initiatives, hein, que ce soit autour du PNR du Vercors, que ce soit autour de la Biovallée, que ce soit autour du projet du Parc Naturel Régional des Baronnies. Il y a des dizaines et des dizaines d'initiatives. Ce dont on a besoin aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu cruellement, mais je le redis, parce que je le pense, c'est que maintenant, il faut un parlementaire au service de ces initiatives. Hein, il faut sortir du carcan des politiques nationales et il faut que le député aille chercher toutes les initiatives locales. Je ne passe pas une journée sans trouver une initiative locale qui existe, mais qui n'a jamais vu personne et surtout qui a un problème en France de financement. Nous n'avons plus de banques aujourd'hui qui financent les initiatives, qu'elles soient dans l'agroalimentaire, dans la culture, une PME de production, dans l'énergie, hein, un projet de production d'énergie décentralisée, où on n'arrive pas à financer le projet parce qu'il n'y a pas une banque qui veut prêter ou alors à des taux qui n'existent pas. Là, on répond très concrètement. Banque publique d'investissement, Pierre Moscovici a dévoilé les premières lignes hier soir à un premier groupe de travail. Il va le soumettre à l'ensemble des partenaires en juillet. Et cet automne, hein, on aura un nouvel outil. Hein, ce n'est pas comme j'ai entendu un oséobis, hein, on me l'a redit ce matin en débat. Ce n'est pas du tout ça. Hein, c'est une vraie banque publique d'investissement avec une agence régionale qui travaillera de concert avec la région, donc à l'occurrence la région Rhône-Alpes et nos comités de communes, pour répondre aux problèmes. Cette agence régionale sera dédiée aux tout petits projets, hein, aux TPE, aux PME de moins de 20 salariés. Elle sera capable de répondre à toutes les contraintes administratives. Hein, un jour ou l'autre, il va falloir toiletter tout ça et aller aider le porteur de projet et trouver les financements au porteur de projet, soit en fonds propres, soit en crédit. Donc voilà une des réponses très concrètes, où là, c'est l'action du parlementaire au niveau national, hein, c'est mettre en place aux côtés du gouvernement, d'une banque publique d'investissement digne de ce nom. Hein, ce n'est pas Oseo avec ses 2 milliards de fonds propres, hein, qui fait ce qu'il peut, hein, effectivement. Mais souvent, quand on les rencontre, et le directeur régional général était dans la Drôme il n'y a pas très longtemps, ils n'ont qu'une capacité d'aider les gros, hein, très souvent, ou déjà des PME structurées. Aujourd'hui, on passerait de 2 milliards de fonds propres à 20 milliards de fonds propres, et on aurait la volonté d'accompagner les projets des territoires, ce qui manque cruellement dans notre troisième circonscription de la Drôme.
Vous avez décrit là différents projets qui remettent bien, et ça on le sent, je pense, très bien, les auditeurs aussi, la ruralité au centre de ce que vous défendez, et peut-être d'ailleurs de ce qu'a envie de défendre le Parti Socialiste aujourd'hui au pouvoir.
Question... Je me permets de rajouter quand même, pour la première fois dans la République française, vous avez un président du Sénat qui vient de l'Ariège,
oui, c'est vrai.
Et un président de la République qui vient de la Corrèze. Je pense que ça va quand même nous changer d'accord, de Neuilly et de leur banlieue parisienne. Je pense qu'en termes d'état d'esprit, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'écoute, elle est complètement différente. Donc, je fais confiance, hein, à ces élus pour effectivement que l'on soit non seulement entendu, ça c'est bien, hein, écouté, entendu, mais surtout qu'ils nous aident aujourd'hui parce qu'on a... On a des richesses fabuleuses. Hein. Alors c'est vrai que nous vivons, on n'en a pas encore parlé, d'un secteur qui est le tourisme, hein, et que les gens viennent découvrir ces territoires merveilleux. Mais si on veut qu'ils demeurent merveilleux, comme vous posiez la question tout à l'heure, il faut que partout dans ces villages, il reste des populations toute l'année qui sont les garants, hein, de ces territoires, et notamment notre agriculture, sur lequel on a à certains endroits du mal donc à fixer ou à transmettre donc les exploitations.
Allez-vous aller contre au gouvernement, contre la réforme territoriale qui était censée faire sauter tout un tas de conseillers,
hein, donc aujourd'hui, doivent-elles
rester ces lois-là ?
Donc très concrètement, le conseiller territorial, pour information, n'existe plus. Hein, puisque le Sénat, je vous le rappelle, qui venait juste d'avoir une nouvelle majorité, hein, donc a mis en place un texte qui a détricoté le conseiller territorial. Alors j'ai entendu dans les journaux effectivement qu'on nous continue à nous parler de 28 élus, etc. Ça n'existe plus.
Hein. C'est important de le redire.
Et vous aurez, mais je pense que c'est important de le dire, parce que je lis encore dans les médias, des gens qui continuent à proposer en disant bah, « toi tu seras avec toi ». Non, le conseiller territorial, il n'existe plus, il n'a plus aucun fondement en droit aujourd'hui. Et de toute façon, hein, dans le projet de François Hollande, c'est clair, nous allons, un, maintenir, alors c'est un mot énorme, hein, dont tout le monde se fout, la clause de compétence générale. Par contre, elle est indispensable. C'est-à-dire permettre aux collectivités locales de continuer à pouvoir volontairement intervenir en dehors de leur champ de compétences. C'est comme ça que le département de la Drôme est le premier financeur de l'ensemble du tissu associatif de ce département. Hein, c'est plus de 13 millions d'euros qui, chaque année, volontairement, en dehors de nos compétences, permettent de faire vivre tout ce tissu. Et puis, deuxièmement, clause de compétence générale, c'est très important, même si on va certainement flécher donc les compétences, en disant la région sera plutôt compétente sur tel secteur et le département plutôt sur d'autres. Il faut peut-être avancer dans ce domaine-là, mais surtout, donc, on va maintenir, hein, un conseiller régional et un conseiller général. Donc il y aura une nouvelle loi qui sera proposée au Parlement à la fin de l'automne prochain pour remettre en place et rassurer, hein, je crois que c'est vraiment le mot qu'il faut employer, nos populations qui l'ont bien compris. Hein. Pareil, c'est le même raisonnement urbain. Est-ce qu'effectivement, à Lyon, il fallait maintenir ou mettre 17 conseillers territoriaux de plus et en enlever je ne sais pas combien dans la Drôme? Bien évidemment que non. C'est toujours le même raisonnement que je tenais tout à l'heure. Donc dans cette nouvelle loi, nous maintiendrons donc d'abord des départements, Ce qu'on avait bien compris dans la loi d'avant, c'était en gros la disparition des départements très rapidement et surtout des conseillers généraux qui seront toujours, on va dire, touchables du doigt, hein, des gens qui vivent avec leur territoire et qui sont capables de les écouter et de les accompagner au quotidien.
Quels sont les atouts que possède la Drôme économiquement ?
Bien sûr, au niveau de la Drôme et du Divois en particulier. J'ai commencé à vous donner quelques pistes tout à l'heure. Je pense à tout un tas de filières en termes de production d'énergie, en termes de valorisation de produits agricoles, en termes de filières d'éco, en termes d'éco-construction. Et puis, j'allais dire, tous les projets hein, aujourd'hui qui existent sur ces territoires, qu'il faut accompagner et développer. Je suis sûr que dans cette troisième circonscription et dans le Divois en particulier, nous foisonnons d'initiatives. Encore faut-il aujourd'hui peut-être les accompagner, les développer. Donc on vous parlait aussi du numérique qui effectivement permet, une fois qu'on a mis des réseaux, de mettre en place, donc d'héberger des sociétés de l'intelligence de demain. Donc je ne vais pas vous citer de nom parce que pour l'instant c'est un projet, mais vous avez des entreprises innovantes qui aujourd'hui sont en pleine réflexion dans nos territoires de cette troisième circonscription et qui attendent qu'un coup de pouce pour s'implanter. Je peux vous dire qu'elles ne vont pas s'implanter à Pirlate hein, et qu'elles viendront s'implanter dans notre arrière-pays. Parce qu'une fois que vous avez le réseau, hein, il faut bien comprendre qu'une fois que la fibre arrive, vous faites abstraction de tout le reste. Du moment que c'est une société qui n'a besoin que du réseau pour se développer et tout ce qui est, j'allais dire, recherche, développement ou autre, une fois que c'est quand même plus sympa de venir s'installer à Die, à Luc ou dans d'autres communes de ce territoire du Divois que d'installer son entreprise. Je ne pensais pas vous qui allez me démentir à Radio Divois que dans la vallée du Rhône. Donc oui, je pense que cette nouvelle façon de vivre, vous savez, l'environnement au travail, c'est beau le travail. Hein, je crois que je ne veux pas dire le contraire. En plus, si mes enfants m'écoutent, comme ils ne m'ont pas vu depuis un bon bout de temps, c'est pas eux qui vont me démentir que le travail c'est beau, mais quand même quand on travaille et que le soir, même si c'est tard, on est dans l'environnement de cette troisième circonscription, on est dans le Divois, je pense que notre tête elle est plus d'aplomb et qu'avec toute la richesse culturelle qu'on a sur notre territoire, je pense qu'on travaille aussi bien, voire même beaucoup mieux dans des environnements et dans les paysages du Divois que dans la vallée du Rhône.
Et au niveau logement, justement, si vous parlez de développement numérique, ça nécessite aussi certainement des logements en plus.
Je crois que vous avez mis le doigt de... Si on retisse des services publics, notamment de base, que je citais tout à l'heure, la santé, l'école, la présence postale, les services publics essentiels. Si on relance de l'activité, c'est-à-dire si on permet de refixer des populations plus jeunes dans ces territoires, après, c'est un cercle vertueux. Aujourd'hui, on est dans la spirale des fermetures. Mais après, ça sera les commerces, ils auront à nouveau des populations pour vivre, pas seulement en saison, mais toute l'année, ils vont réouvrir. Après, vous mettez le doigt sur la clé, qui est le logement, hein, qui est là aussi un des axes très forts du projet de François Hollande, puisqu'on propose très concrètement donc le doublement de la production de logements. Là aussi, comment ? On dit chaque fois comment ? C'est écrit, hein, il suffit de lire le projet, en mettant pendant un moment le mécanisme de doublement des plafonds du livret A. Hein, vous savez que la collecte qui se fait sur le livret A est directement recyclée par la Caisse des dépôts, qui est l'organisme qui finance l'ensemble donc des organismes qui font du logement dans nos territoires. Donc ce mécanisme de doublement permettrait donc de donner les moyens. Hein, et nous avons dans notre département des organismes qui sont tout à fait performants, hein, qui aujourd'hui d'ailleurs construisent dans nos territoires. On était à Rocoubo il n'y a pas très longtemps pour en inaugurer certains. Je vous disais, c'est eux qui font la MARPA à Luc-en-Divois. Donc les outils, ils existent. Ce qui nous manque, c'est les financements. Donc là aussi, il y a une réponse très concrète avec, j'allais dire, deux fois plus de moyens pour réaliser donc deux fois plus de logements une fois qu'on aura proposé des activités dans nos territoires. Donc c'est vraiment, quand je dis faire entendre la voix, c'est pas crier que je veux, moi. Ça sert à rien de crier, hein, ou d'aller revendiquer. Il le faut souvent pour mener des combats. Et je salue, hein, toutes celles et tous ceux, notamment, qui ont mené ce combat pour l'hôpital de Die, parce que je pense que sans eux, aujourd'hui, on aurait déjà fermé. C'est grâce aujourd'hui à leur mobilisation qu'on a pu le maintenir en activité. Mais moi, mon boulot, c'est certes de les accompagner, mais ce n'est pas faire que de crier, c'est trouver des solutions et partir de ce constat. Oui, il est sévère. Oui, c'est difficile. Oui, l'agriculture s'ouvre. Oui, nos commerces ferment. Oui, mais si on inverse la spirale, hein, si on remet, j'allais dire, de la logique, si on remet des services publics, si on apporte des solutions concrètes pour développer des activités, je vous en ai cité tout à l'heure sur trois ou quatre pistes, si on remet en place des logements accessibles et décents, économes en énergie, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas chers pour nos concitoyens, eh bien, on va inverser la tendance. Donc oui, on le dit souvent avec Didier Guillaume, ça avait fait l'objet l'autre fois d'un rapport et d'une discussion au Sénat, donc à l'automne dernier. La ruralité est une chance pour notre territoire, parce que je suis sûr que si on repart dans ce cercle vertueux, on aura vraiment beaucoup de gens, il y en a déjà, qui viendront donc développer ces territoires et les faire vivre comme on les a connus il y a quelques temps.
On approche bientôt de la fin de cet entretien. Je voudrais avoir votre point de vue sur le nucléaire. On n'a absolument pas abordé. On a parlé de sauvegarde du territoire. On a parlé d'environnement. Non, on ne s'est pas arrêté vraiment sur le nucléaire, qui est économiquement quand même une des plus grosses activités du département, d'un point de vue financier.
Bien sûr.
Mais qui est, et puis on va revenir sur notre territoire, très peu populaire quand même dans cette troisième circonscription, concrètement.
Je suis le candidat de François Hollande, donc je suis dans le projet de François Hollande qui, je vous le rappelle, a très bien exprimé le fait que l'indépendance énergétique de la France doit reposer sur deux piliers, hein, sur ces deux pieds. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Il faut construire le second. Le premier pilier, effectivement, ça reste une industrie nucléaire plus sûre, sur laquelle on veut continuer à investir à la fois pour sa sécurité, pour la sécurité des personnels, et puis mettre beaucoup plus de transparence dans la chaîne de sous-traitance, de manière à ce que l'on ne reproduise pas ce qui s'est passé il y a quelques temps. Donc ce premier pilier, il le revendique, il le développe, il le sécurise, et donc effectivement les populations concernées donc se rassurer. Mais j'allais dire, et c'est notre troisième circonscription, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, est directement concernée. On met un deuxième pied à l'indépendance énergétique de la France, et là, tout à construire. Et là, il faut, j'allais dire, qu'on saute dessus, excusez-moi l'expression pour nos territoires, c'est construire une véritable industrie structurée avec produire autrement. Donc d'abord, économiser l'énergie. Hein, je vous rappelle qu'il y a un grand plan d'isolation d'un million de logements qui est prévu dans le plan de François Hollande. Ça va générer des emplois de demain. Hein, ces métiers d'isolation. On a aussi des matériaux à valoriser pour faire ces isolations dans notre troisième circonscription. Et puis, construire des filières de production donc, d'énergie. Je vous en ai cité une tout à l'heure, la méthanisation, hein, qu'on peut développer sur nos territoires. Il y a encore des possibilités sur ce qu'on appelle de la petite hydraulique, hein, dans nos territoires. Je vous rappelle aussi qu'on a construit déjà un outil public dans ce département, autour donc d'Energies d'aide et du Conseil général. Donc on a un outil public qui peut venir porter des projets de production. Donc la petite hydraulique, c'est encore une nouvelle source de production. Et puis on a ce qu'on appelle, alors c'est un peu technocratique, la biomasse, c'est-à-dire valoriser notre forêt intelligemment. Aujourd'hui, la région Rhône-Alpes, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, l'a écrit. La forêt drômoise a chaque année un excédent non valorisé de 500 000 tonnes de bois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Ces 500 000 tonnes de bois, ils sont comme ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Ils pourrissent à quelque part, ils ne sont pas valorisés. C'est aujourd'hui une source d'énergie qu'il faut valoriser intelligemment, pareil, localement, en faisant des petites unités de production, des petits réseaux de chaleur dans certaines communes. Je citais l'Ariège tout à l'heure, c'est un territoire exemplaire où vous avez dans des petites communes de 200 ou 300 habitants des tout petits réseaux de chaleur pour les bâtiments publics, mais aussi pour les résidences. C'est produire localement, c'est valoriser la forêt, c'est des ressources pour nos agriculteurs ou pour nos communes forestières, et c'est des économies aussi de moyens parce que ben, on arrive à fournir de l'énergie moins chère. Donc voilà, le projet de François Hollande, il est très clair. C'est effectivement ce premier pilier que j'ai développé, mais c'est surtout construire ce deuxième pilier qui n'existe pas, hein, qui a été à l'abandon. On n'a aucune filière de construite sur l'énergie renouvelable. On a fait le yo-yo sur le photovoltaïque avec les résultats qu'on connaît et les drames de photowatts dans la banlieue lyonnaise. Donc là-dessus, hein, notre territoire drômois, je veux dire, il a des atouts, et cette troisième circonscription a des atouts fabuleux, fantastiques, si on a un député qui y croit et qui finance les initiatives, soit publiques, hein, il y en aura qui seront forcément publics sur des réseaux de chaleur en termes de production d'énergie, mais aussi privés qu'il faudra accompagner en termes d'autorisation, sur lequel il faudra négocier, hein, certainement avec ERDF pour les évacuations donc d'énergie sur les réseaux. Donc là, oui, il y a vraiment une opportunité, hein, pour répondre à votre précédente question, pour trouver de nouveaux métiers, de nouveaux emplois et fixer de nouvelles populations à l'année sur nos territoires. Donc c'est vraiment un chantier que j'avais peut-être évoqué très rapidement, qui est essentiel pour cette troisième circonscription.
Vous avez évoqué négociation avec ERDF. Ça ne peut pas passer par une renationalisation de ce service?
Alors, vous avez
deux choses. C'est EDF qui est privé, voilà, mais l'exploitant des centrales est privé, le réseau est public.
Voilà, on a fait quand même deux choses différentes. Hein, sur les télécoms, on a ouvert le capital de France Télécom, mais les réseaux sont restés malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, c'est une très grave erreur, un peu ancienne. Hein, on ne pensait peut-être pas que le numérique allait être aussi important. Autant aujourd'hui, même si l'ancien gouvernement avait des tentations, aujourd'hui, EDF est effectivement une entreprise dont le capital est ouvert, mais par contre, ERDF et RTE restent des entreprises publiques. Mmh. Heureusement. Je pense que les réseaux, hein, quels qu'ils soient, c'est, j'allais dire, la vie. Hein, c'est,
mais l'entretien des centrales, c'est quand même EDF, donc pour beaucoup. Et là, vous parliez de sécuriser ces installations, ce genre de choses.
Oui, mais je vous rappelle que l'État est actionnaire majoritaire et d'EDF, et d'Areva, hein, et que quand je parle de sécurité, ça veut dire qu'à la tête de l'État, il faut une véritable stratégie industrielle aussi sur cette filière pour imposer la sécurité. Et si vous discutez,
on
avec
entend que jusqu'à maintenant, ça a été laissé de côté, quoi.
Non, c'est qu'on a fait du libéralisme aussi sur l'entretien de certains trucs, avec toujours le moins 10 ans. On ne peut pas faire une politique d'achat dans ces entreprises au moins 10 ans quand on parle de sécurité nucléaire. Et pareil sur les chaînes de sous-traitance. Parce que quand on fait du moins 10 ans, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, il faut qu'elle prenne. Sauf qu'après, et c'est normal, les rémunérations des personnels qui travaillent, vu la sécurité auquel ils sont confrontés, ils ne peuvent pas faire. Ils sous-traitent, l'entreprise qui sous-traite. Et à la fin, on a des personnels qu'on met en danger, d'abord, et après, qui n'ont peut-être pas les formations nécessaires pour entretenir. Donc voilà ce que je dis à un pilote dans l'avion, au niveau de ces grandes entreprises, avec l'abandon, hein, des règles libérales, notamment quand on parle de sécurité.
Si je conçois bien un peu vos idées par rapport aux engagements du Parti Socialiste au niveau local, ça serait d'utiliser les atouts et ce que la nature offre pour pouvoir asseoir un socle de société qui puisse permettre à tous de vivre.
Non, mais je crois que le projet, il est assez clair. Il a plusieurs piliers. Son premier pilier, c'est le redressement de ce pays, hein, qui est nécessaire pour faire en sorte que nos citoyens aient tout simplement un emploi décent pour vivre où ils le souhaitent, et notamment, je l'espère, très nombreux dans notre troisième circonscription. Il a un deuxième pilier, c'est la justice, hein, qui a été, je crois, abandonnée ces dernières années, la justice fiscale, la justice sociale, on en a parlé sur l'accès à la santé, et la justice territoriale. Et c'est là où je dis qu'on doit faire entendre la voix de nos concitoyens. Il a un troisième pilier, c'est de dire il faut donner un avenir à notre jeunesse. C'est pour ça que c'est la priorité, j'allais dire le fil conducteur du projet de François Hollande. Et il n'a d'autre, j'allais dire, volonté que de faire en sorte que ce pays redevienne un pays où on arrête de faire vivre des peurs, on arrête de montrer du doigt des populations, on soit capable de refaire ce qui est, j'allais dire, la force de ce grand pays qui est qu'est la France, qu'il soit à nouveau respecté par la voix qu'il fait entendre, qu'il soit à nouveau respecté par les grands principes qu'il défend. Et je crois que cette volonté de François Hollande, quand il parle de république exemplaire, c'est non seulement changer de comportement, mais c'est aussi de prendre l'engagement d'inscrire dans notre constitution les principes fondamentaux de la loi 1905 sur la laïcité. Voilà, c'est des valeurs qu'on veut remettre au centre du débat. On est là pas pour paraître, mais on est là pour agir et pour faire en sorte tout simplement que nos concitoyens puissent vivre, j'allais dire, dignement dans leur pays qu'ils ont choisi, qu'ils aiment, sans qu'ils aient peur de l'autre. Et pour cela, je crois qu'il faut des élus qui s'engagent avec détermination, mais avec un seul principe, c'est servir leur pays, servir cette République française qui nous rassemble, qui nous unit et qui doit donner un avenir aussi à l'ensemble des populations, qu'elles vivent en ville ou qu'elles vivent dans notre magnifique 3e circonscription de la Drôme.
Hervé Rascard, vous vous présentez pour le Parti Socialiste sur la 3e circonscription de la Drôme. Merci d'avoir participé à cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci aussi.
Législative 2012, 3e circonscription de la Drôme.
Une émission spéciale consacrée aux élections législatives avec en invité un candidat du premier tour.
3e circonscription de la Drôme.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA avec Baptiste à la réalisation.